Oui, donc aujourd'hui, jeudi 22 mai, la bibliothèque Saussoile continue son programme 2014, donc c'est l'avant-dernière. Donc je vous dis tout de suite que la dernière n'aura pas lieu un jeudi, mais elle aura lieu exceptionnellement un samedi. Ce sera le samedi 28 juin et nous recevrons Jérôme Prieur. Voilà, donc on passera d'abord un film. Il a fait un film qui s'appelle Hélène Baird, une jeune fille dans Paris occupé. Et puis ensuite, on discutera de ce film et puis aussi de deux romans, Une femme dangereuse et Le mur d'Atlantique. Donc ces livres sont disponibles à la Bibliothèque Saussoile, bien sûr. Donc si vous voulez préparer cette réunion-là, n'hésitez pas. Donc pour tout ce qui concerne la Bibliothèque Saussoile, nous avons le programme avec les différentes adresses et vous pouvez aussi inscrire votre nom sur la feuille qui est à l'entrée de façon à ce qu'on vous envoie des infos au fur et à mesure. Bon, c'est pas très souvent, on vous inonde pas de courriels. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Claude Pentier et puis Hugues Lenoir. Donc, à propos de la sortie du livre Les anarchistes, il y en a deux exemplaires là-bas, il y en a un derrière. Et ce dernier volume est un volume qui s'inscrit dans le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Donc, je pense que Claude Pentier va nous dire un peu de quoi il s'agit. Et il est consacré aux anarchistes français. Alors, francophone, voilà, déjà, faut petite précision aussi là-dessus tout à l'heure. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ce que c'est que ce dictionnaire qui est Jean Métron, qui est à l'origine, s'il te plaît. Alors, il faut parler dans le micro parce que c'est enregistré.
Avec plaisir. D'abord, bonjour et merci d'être accueilli dans ce lieu tout à fait sympathique, étonnant. Il faudrait qu'il y en ait comme ça dans chaque département. Donc, on a été un peu retardé par une grève, mais enfin, vive la grève quand même, quoi. Hein, vous êtes resté là, c'est l'essentiel. Et donc, le Métron, c'est une œuvre qui est à mi-chemin, finalement, parce qu'elle a 50 ans et on espère bien tenir les 100 ans. Donc voilà, on fait le bilan. C'est un dictionnaire biographique. C'est une œuvre un peu unique hein, au plan international, puisque c'est un dictionnaire biographique qui paraît depuis 1964 et qui veut faire ressurgir tout un peuple militant, donc qui ne fait pas que les biographies des personnes, des théoriciens, des personnalités importantes, mais qui va chercher dans les régions, dans les métiers. Des gens qui ont marqué, qui ont transformé le mouvement social, qui ont un impact, même momentané, et ça de la Révolution française jusque là, on arrive à 68, jusqu'en 1968. Ça fait 140 000 biographies en tout. Jean Métron, qui était instituteur et qui est devenu ensuite universitaire, qui est l'auteur d'une thèse que vous voyez là, d'ailleurs, c'est l'édition originale. Là.
Oui, 1951.
Chez Sudel, oui, en 1951. Après avoir fait cette thèse, a eu envie de faire justement quelque chose, un dictionnaire original, un dictionnaire qui allait plus loin. Il n'a peut-être pas imaginé que ce serait 140 000 biographies, sinon je crois que ça l'aurait peut-être freiné dans son, dans son mouvement. Il imaginait quand même des choses. Mais l'esprit était là, c'est d'aller loin. Dans la récolte. Et d'ailleurs, du coup, les premiers volumes du dictionnaire ont été accueillis de façon un petit peu mitigée. Hein. Il y a certains ont été enthousiastes, des universitaires de la Sorbonne. Il fallait voir ce qu'était la Sorbonne à l'époque. Hein. C'était quand même il a eu l'idée du dictionnaire donc à la fin des années 50, dans un moment où, sur le plan historique, il y avait le poids de l'école des Annales qui était fort intéressante par bien des aspects, et puis le poids de l'école labroussienne du nom d'Ernest Labrousse, un ancien anarchiste d'ailleurs, Ernest Labrousse. On l'a mis dans le Métron, on l'a mis dans le Métron des anarchistes, et qui faisait une histoire économique et sociale intéressante, mais dans laquelle l'homme, l'action humaine n'avait pas de place, notamment l'homme pris à la fois individuellement et revisité collectivement. Ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Au plan politique, c'était le culte à la personnalité, le pouvoir du stalinisme au summum, quoi, hein, la mort de Staline en 53, Maurice Thorez, fils du peuple, etc. Donc on regardait le mouvement social par en haut, pour l'essentiel.
Oui, d'ailleurs, je pense que ça a été un petit peu une explication du frein du dictionnaire, parce que bon, Metron, au départ, quand même, quand il a écrit sa thèse sur le mouvement anarchiste, bon, il y avait quand même une hégémonie marxiste au niveau de l'université, on peut dire les choses comme ça, même si c'est un peu caricatural, parce qu'il y avait quand même d'autres courants représentés.
Il y avait l'hégémonie de la droite, en réalité.
Oui.
Mais enfin, bon, dans l'aile avancée, il y avait le point du marxisme. Mais l'hégémonie de la droite, c'est-à-dire la Sorbonne, c'est quand même des vieux conservateurs. Alors, le mélange des deux faisait qu'il détonnait un petit peu. Ouais. D'abord, ancien instituteur, faisant une thèse très remarquée, qui est devenue un classique. Hein, bon. Mais voilà ce projet qui paraissait gigantesque, tout ça. Alors, il y a un chercheur qui est un religieux, d'ailleurs, qui travaille sur la Lorraine, qui a vécu cette période-là dans un débat comme ça. Il nous a dit « Ah oui, je me souviens que Jean Metron était critiqué à l'époque, mais je ne me souviens ni du nom ni de l'œuvre de ceux qui le critiquaient. » C'est un peu méchant, mais il faut des fois un petit peu de... Voilà. Donc, du coup, dès le départ, pour quelqu'un comme Jean Metron, le mouvement libertaire avait sa place, puisque d'abord, il connaissait ses militants, puisqu'il les avait interviewés, recueillis les archives, etc., avait sa place. Mais il voulait faire ressurgir tous les courants, tout ce qui a fait la complexité du mouvement ouvrier dans sa... ses contradictions, ses tensions, c'est ne rien cacher, ne rien masquer de tout ça. Bon, je fais court, mais le fait que maintenant l'outil informatique nous permet de revisiter toutes ces biographies, d'aller plus loin, de mettre en œuvre par corpus, ben voilà, par exemple les anarchistes, c'est pas simplement un livre, 500 biographies pile, c'est une volonté, hein. On voulait que le chiffre... Par les 500, on veut dire, on aurait très bien pu en prendre 501, on aurait pu en prendre 499. Vous voyez, notre chiffre, il n'est pas fixé par rapport à des critères, il est fixé par une obligation à un moment de s'arrêter. Mais à côté de ça, 3200 biographies en ligne. Donc le fait que tout ce Metron soit maintenant en ligne change la nature, permet de revisiter, de modifier.
Son œuvre a continué, parce que si j'ai bonne mémoire, tu avais donc secondé Jean Metron.
Oui, oui, oui.
Tu fais aussi seconder, apparemment, par quelqu'un
de toi
qui
est bien sûr. Oui, donc j'ai travaillé assez tôt avec Jean Metron, et puis à un moment, enfin très vite d'ailleurs, parce que c'était un homme qui avait les pieds sur terre, très vite, finalement. Tu vas prendre. Il m'avait d'ailleurs associé à la direction avant sa mort, parce qu'il n'était pas du genre à se dire à laisser comme ça du vide dans le milieu universitaire. Aussitôt, il peut y avoir des appétits, il peut y avoir des freins, etc. Donc, il avait tout organisé. C'est un homme très sympathique. C'est un homme intense. C'est-à-dire que ses interlocuteurs, il ne pouvait pas rester indifférent vis-à-vis d'eux. Hein. Il avait devant lui un chrétien, un anarchiste, un communiste. Il voulait savoir pourquoi ils étaient chrétiens, pourquoi ils étaient anarchistes, pourquoi ils étaient communistes. Et il a discuté. Et cette intensité, finalement, plaisait aux gens, parce qu'on pourrait dire c'est sa façon de le faire. C'est parce qu'il s'engageait. Il aurait pu choquer des gens en leur disant... et puis, il pouvait dire, par exemple, ça le disait... Soyez communiste, mais ne soyez pas permanent, ne soyez pas des professionnels de la politique, etc. Bon, donc il portait un propos, mais il portait ça avec une telle force, et puis il ne jouait pas les universitaires, il était très respectueux des individus, il ne créait pas d'obstacles, quoi. Il n'avait pas la morgue qui caractérisait, hein, faut pas exagérer. On vit une période où on connaît un monde universitaire beaucoup plus ouvert que ce qu'il avait pu connaître lui, ce qu'on a connu jusqu'avant 68, et puis peut-être un peu après aussi. Hein.
On en a encore quelques-uns.
Bon. Donc en effet, il a su passer des relais, Et le relais s'est fait toujours dans le respect de ce qu'il avait fait. Même si au bout du compte, on fait des choses différentes. Forcément, le temps passe, l'historiographie change, les méthodes techniques, quand on dépasse l'informatique au moment de son décès. Mais c'est toujours dans l'esprit de ce qu'il a fait. Et toujours, on n'a jamais voulu bouger d'un poil dans la référence. C'est le métron et on parle toujours fortement en sympathie de ce qu'il fait. Parce que c'est le gros danger, ce que fait régulièrement. Pour se hisser, ben on piétine ce qu'il y avait avant et ça ne construit pas l'avenir. Alors, bon, en même temps, on passe, oui, en même temps, bon, de la même façon, j'essaye de passer le relais d'une autre génération, mais il faut encore que l'université suive, que les moyens, qu'il y ait un public. Parce que le métron, il est à cheval sur. Il a trois pieds, en quelque sorte. Le pied dans l'édition, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui éditent, qui vendent, qui font exister. Oui, 71 volumes, c'est pas rien, ça n'existe pas. En principe, ça ne devrait pas exister. C'est une chose qui est une aberration. Il y a des aberrations, des fois, qui prennent force. Donc, forcément, il y a une préoccupation qui est éditoriale. Ça existe, il y a un équilibre entre ce qui existe sur le papier, ce qui existe sur Internet, rencontrer un public. Bon. Donc, dans l'édition, il y a le rapport avec le public. C'est un pied dans le mouvement culturel issu du mouvement ouvrier et social, dans sa diversité, dialogue avec les syndicats, dialogue sur le terrain, avec différents courants, avec le monde culturel aussi, du cinéma, de l'éducation populaire, la pédagogie, enfin tout ça, ça en participe.
Ça c'est vrai, mais c'est surtout dans les 9 derniers volumes, c'est-à-dire que cette ouverture-là s'est faite petit à petit quand même.
Non, il y a toujours le métron a jamais été, c'est l'œuvre la moins, c'est l'œuvre consacrée au mouvement ouvrier la moins ouvriériste. C'est-à-dire qu'elle a toujours pris en compte les influences intellectuelles, philosophiques, artistiques, sur le mouvement ouvrier. Parce qu'aujourd'hui, n'importe comment le mouvement ouvrier, c'est le mouvement social des sociétés industrielles. Quand on arrive en 68, il y a ce mouvement ouvrier traditionnel qui existe, qui est divisé, qui s'affaiblit, mais il y a l'anticolonialisme, il y a la lutte contre l'armement atomique, il y a les combats pédagogiques qui sont pas exactement, qui ont à voir avec le mouvement ouvrier, mais qui se situent dans, des fois dans un dépassement aussi de la société industrielle, hein, pas complètement dans cette... Et je voulais dire le troisième pied, là, parce que tu m'as laissé sur deux pieds, mais il m'en faut trois pour... c'est un trépied pour tenir. Bon, ben, c'est l'université, c'est le CNRS, c'est etc. Le CNRS nous a soutenus. Moi, je suis chercheur CNRS. Le jeune Paul Boulan qui travaille avec moi, qui est associé à la co-direction, il est au CNRS. On est sur un laboratoire université, Paris 1, CNRS. C'est pas des soutiens massifs, mais c'est des soutiens indispensables. Mais l'idée avec tout ça, c'est d'avoir une œuvre qui reste indépendante au bout du compte. Même si elle ne le proclame pas trop, je peux le dire à vous, vous n'allez pas le répéter, mais on veut toujours rester... On veut rester indépendant, on ne veut pas être dépendant d'une hiérarchie universitaire ou de tendance du moment. On ne veut pas être dépendant d'un parti politique, on ne veut pas être dépendant d'un syndicat. Sinon, on n'aurait pas les 50 ans et alors encore plus les 100 ans que je projette. Là. Bon, c'est un peu un gag, on ne sait jamais ce que seront. Mais je veux dire que sans indépendance, de fait... Hein, ne peut pas tenir, on ne tiendrait pas sur la durée.
Et bon, au niveau, justement, pour revenir un peu au métron des anarchistes, comment vous avez choisi l'équipe, l'époque de référence, qui vous mettez, qui vous ne mettez pas,
faut laisser un peu la parole à mon camarade.
Ouais, d'abord pour dire, Métron, au-delà de ce que vient de dire Claude, c'est aussi lui qui va réintroduire comme objet de recherche l'anarchisme dans l'université. Ce qui est quand même pas rien. Aussi bien par sa thèse que par un certain nombre de biographies qui vont apparaître dans le dictionnaire. Voilà, donc c'est pas rien pour nous, quoi. Hein, voilà. Alors, le dictionnaire Les Anarchistes, c'est une vieille histoire, si j'ose dire, entre Claude Pelletier et moi-même. autant le dire. Voilà, autour de Radio Libertaire, puisque j'anime, moi, depuis une trentaine d'années maintenant, une émission régulière qui s'appelle Les Chroniques syndicales. Et j'avais pris l'habitude, quand un volume sortait, grosso modo, une fois par an, donc de cette collection-ci, voire des volumes précédents, d'inviter Claude, voire quelques autres auteurs, pour évoquer un certain nombre de grandes figures de ces volumes-là, en extrayant un certain nombre de militants anarchistes, mais pas seulement, pour montrer justement cette diversité du mouvement social, dans lesquels les anarchistes s'inscrivaient d'une manière hégémonique, ni toujours de manière extrêmement minoritaire. Et puis, de fil en aiguille, avec des discussions, des émissions successives, on a évoqué le fait qu'on pourrait peut-être extraire des 60 premiers volumes l'ensemble des biographies de militants anarchistes qui pouvaient y apparaître. Donc simplement faire une extraction. Et puis, en discutant avec d'autres personnes qui sont sur cette couverture, là, Marianne Henkel, Guillaume Davranche, Anthony Lory, là, qui nous a quittés un peu précipitamment, Einsteiner et d'autres, on s'est dit, mais ces biographies ont quelquefois vieilli. Alors, comme le disait Claude, l'historiographie a évolué, il y a des sources qui n'existaient pas, qui se sont ouvertes, tu pourras peut-être en dire un mot tout à l'heure, à Fontainebleau ou ailleurs. Et même les biographies existantes, rédigées par Métron ou les équipes antérieures, avaient, pour certaines d'entre elles, vieilli. Donc on s'est dit, avant de publier quelque chose qui serait simplement l'extraction des 60 volumes du Métron, on va revisiter un certain nombre de biographies pour les mettre à jour. Donc ça, c'était le premier élément. Et le deuxième élément, on s'est dit, mais parmi les gens qui aujourd'hui sont toujours présents sur le terrain de la militance anarchiste, certains ont commencé à militer il y a déjà très longtemps et ont une histoire importante dans ce mouvement anarchiste. Et donc on a fait le choix d'intégrer un certain nombre de militants vivants, dont Dominique Lestrade, non pas dans le dictionnaire papier, puisqu'on n'a mis aucun vivant dans le dictionnaire papier, mais dans la base électronique dont parlait Claude tout à l'heure, mettront en ligne avec la rubrique Les anarchistes, avec l'idée que, double idée, la première, c'est qu'on ne voulait pas que les traces de ces militants disparaissent, comme vous l'a dit Claude. Le Métron, c'est aussi l'histoire de ce mouvement social dans sa généralité, y compris ceux et celles qui étaient les moins connus ou les moins reconnus dans les mouvements sociaux, puisque c'est l'ensemble des individus qui font les mouvements sociaux. C'est pas quelques vedettes, quelques secrétaires, quelques écrivains qui le font, qui ne sont que les figures emblématiques de ces mouvements-là. Et donc, l'idée était de dire, aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens que l'on connaît et qui vont peut-être disparaître si nous n'y prenons garde du fait de ce que l'histoire fait. Et donc, on a décidé de collecter aussi leurs témoignages en direct pour faire apparaître une partie de leur vie dans ce dictionnaire biographique. Voilà. Ce qui nous permettra, d'ici 50 ans, de croiser deux sources essentielles pour construire des biographies de militants anarchistes: les archives de police et éventuellement les déclarations des militants que nous avons rencontrés. Puisque, au moins sur les biographies anciennes, c'est souvent les archives de police qui nous servent, et où, quand ils ont été un petit peu sur le devant de la scène, des gens qui sont apparus dans des meetings, des gens qui ont écrit des articles ou qui ont eu des responsabilités dans des secrétariats syndicaux ou dans les organisations anarchistes. Donc, croisons les sources pour être sûr que ce qui sera dit dans les biographies, au moins de ceux que nous avons pu rencontrer ces derniers temps, eh bien, les choses soient un peu plus vraies que le discours policier sur la vie de ces hommes et de ces femmes. Donc ça, c'est comme ça que l'idée du dictionnaire est née. Et c'est un travail qui nous a pris 6 ans, c'est ça?
Ouais. 6 ans. Et tu nous parlais donc de sources nouvelles?
Oui, parce que il y a des sources policières qui sont ouvertes, mais il y en a une qui est un petit peu spectaculaire, parce que c'était les dossiers de la sûreté ont été pris par les Allemands en juin 40, quand ils sont arrivés à Paris. Elles ont bougé un peu en Allemagne, elles se sont retrouvées en Tchécoslovaquie d'ailleurs finalement, et les soviétiques ont récupéré ces sources et les ont classées dans un bâtiment qui s'appelait les archives spéciales, qui n'était pas ouverte aux chercheurs. C'est différent, alors quand on parle de ça, c'est différent des archives du Ergaspi, de l'ancien institut du marxisme-léninisme, qui sont les archives du communisme. Hein. Ça, c'était. Oui, mais les archives de Moscou, c'est justement, il y a la confusion entre les deux lieux, parce qu'elles n'ont pas le même destin. C'est-à-dire que les archives des archives spéciales, ce sont des prises de guerre. Donc, elles doivent être restituées comme prises de guerre. À partir du moment où on s'aperçoit qu'elles existent. Par exemple, il y avait toutes les archives syndicales qui ont été saisies dans la fédération de celle de la CGT, dans les différentes fédérations, mais ils ont aussi saisi les archives du comte de Paris, de tel ou tel intellectuel, etc. C'est des prises de guerre, ça. Ils se devaient de le rendre. Ça a pris un certain temps. Moi, j'ai eu l'occasion, parce qu'en travaillant beaucoup à Moscou, un archiviste m'a emmené rencontrer le responsable des archives, j'ai pu visiter tout ça, etc. Et donc les archives de la Sûreté, ils les ont rendues et elles sont consultables à Fontainebleau. Ensuite, il y a eu toute une série de problèmes administratifs, ils les ont mis dans des salles amiantées. Donc à Moscou, à la fin, on pouvait les voir. Hein, parce qu'il y a un moment où on pouvait quand même les consulter, tout à fait à la fin, la dernière année. Mais là, à Fontainebleau, on ne pouvait plus les voir du tout, parce que c'était dans des salles amiantées. Mais toujours est-il que c'est bourré d'informations sur les anarchistes, parce que la police avait une obsession de l'anarchiste, du libertaire. Ils allaient très loin dans la récolte. Il suffisait d'avoir dit un jour à son patron, « Méfiez-vous, Ravachol va venir vous faire la peau », et puis ça y était, ça faisait des fiches. Alors que le gars qui disait ça, juste avait peut-être envie de faire peur, hein. C'était pas forcément un anarchiste organisé. Non, mais il y a tous des fonds extrêmement nombreux qu'on est loin d'avoir complètement visités. Donc ça fait partie. Puis il y a tout simplement, à la préfecture de police, ils progressent quand même dans leur classement. Donc il y a beaucoup de choses qui ont pu être consultées. Si la presse avait déjà été bien consultée, pas simplement par Jean Métron, mais par René Bianco, qui avait fait une thèse importante sur la presse anarchiste. Parce que finalement, les anarchistes étaient des hommes d'écrits, de journaux. Bon, c'était la période aussi qui voulait ça, hein, mais c'était plus accentué quand même. On pouvait même avoir, dans certains cas, le journal écrit à la main, hein, qui existait à quelques exemplaires, reproduits, etc. Bon. Cette littérature considérable, René Bianco en a fait l'inventaire, en a tiré la matière, c'est extrêmement important. Et puis, c'était un univers de conférences, de causeries. Ben voilà, on est bien dans un climat. Sauf qu'il réunissait encore plus de monde.
On n'avait pas de concurrence par la télé.
Ben oui, à l'époque, ça remplaçait. Ça remplaçait les grands débats télévisés. Et Sébastien Faure, Armand, et bien d'autres réunissaient Louise Michel. Alors Louise Michel, naturellement, ouais. Réunissait des salles considérables. La conférence était un lieu important, structurant, où se vendaient des petites brochures. On ne vendait pas tellement des livres, mais la petite brochure qui résumait la pensée sur tel ou tel thème, sur des thèmes de l'individualisme, de l'organisation syndicale, sur les thèmes de la liberté sexuelle, puisque c'était une des grandes thématiques anarchistes, où quelqu'un comme Armand était extrêmement, extrêmement écouté. Voilà, donc là, mais on reviendra un peu sur les caractéristiques du militantisme.
Ce que je voulais dire, c'est quand même que là, nous sommes à Merlieu, 200 habitants. Donc, quand on fait la proportion, on est beaucoup.
Bon. Proportionnellement, on est beaucoup. C'est sûr.
Alors, si on fait la même proportion dans une ville, je veux dire qu'il faudrait des locaux
donc
assez conséquents.
À Paris, ça fait combien de monde?
Ça dépend. Voilà, donc, ce dictionnaire est né comme ça, donc des archives qui se sont ouvertes, avec l'idée, c'est que ce dictionnaire est terminé, au moins pour une première édition papier, il n'est pas sûr qu'il y en ait une seconde, mais le travail reste en cours. C'est-à-dire que grâce à l'électronique en particulier, si vous rencontrez dans ce dictionnaire votre grand-mère ou votre grand-père, si vous considérez que la biographie n'est pas terminée ou pas complète puisque vous avez trouvé telle ou telle chose dans vos archives familiales, on recevra l'information, on la vérifiera tant que faire se peut, de manière à enrichir, compléter les biographies existantes. Et si quelqu'un que vous avez connu, je ne sais pas, à Merlieu par exemple, n'apparaît pas dans ce dictionnaire-là parce que nous ne savions pas que ce militant ou que cette militante avait existé, il est bien évident qu'on recevra avec plaisir vos données et que si elles nous semblent pertinentes, on les intégrera à la base des 3200 biographies existantes aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui reste ouvert pour compléter ce qui existe et voir qui reste encore plus ouvert pour apporter des éléments dont nous ignorons aujourd'hui à peu près tout. Quoi. Voilà. Autre élément de ce dictionnaire qui va renvoyer à la grande collection des Métrons, vous savez qu'un certain nombre de militants se sont engagés dans le mouvement anarchiste pendant un temps et l'ont quitté, quelquefois à peu près honorablement en devenant réformistes, d'autres fois en devenant collaborationnistes. Il y en a quelques-uns, on ne l'a pas caché, ça existe comme dans tous les mouvements. Et on a fait le choix, à la fois pour gagner de la place et pour que l'ouvrage reste bien centré sur les anarchistes, de ne faire apparaître dans ce dictionnaire des anarchistes que la partie de leur vie où ils étaient engagés dans le mouvement libertaire. C'est-à-dire que, par exemple, un Monat n'apparaît que pour cette période-là, un Jouot n'apparaît que pour cette période-là. Et nous renvoyons systématiquement vers la grande collection des Métrons, où là, il y a des biographies complètes sur l'ensemble de leur histoire de vie.
Voilà. Bon, si dans le public il y a des questions, hein, il ne faut pas hésiter à nous interrompre et puis à participer au débat. Comment ça se fait qu'on n'a pas de reliure, nous là?
C'est moins cher.
Là. C'est une blague.
Oui, c'est ça. Pour que ça ne fasse pas une apparence de livre inaccessible. Bon, le Métron se veut vraiment un livre de bibliothèque. Donc. En effet, les bibliothèques, si on ne leur donne pas relier, elles vont le faire relier pour le conserver. Donc, c'est bon.
Vous espérez.
C'est-à-dire que systématiquement, pour tous les volumes qu'on fait en complément du Métron, puisqu'on fait des dictionnaires internationaux, mais.
Il y a quelques-uns ici.
Enfin, les nouveaux dictionnaires internationaux, mais surtout les dictionnaires thématiques.
Sur les gaziers.
Chaque fois, c'est exception parce que les gaziers, la CCAS, nous a demandé qu'ils soient reliés et ils nous financent. Alors, on ne sait rien leur refuser. C'est pas à nos risques. Mais on a fait un dictionnaire des militants du Val-de-Marne. On a fait un dictionnaire des immigrés français en Amérique. La sociale en Amérique, ce qui paraît surprenant.
Oui, derrière, je crois.
Provoqué beaucoup d'intérêt, aux États-Unis notamment, bien qu'il soit en français, enfin, il a obtenu beaucoup de reconnaissance. Il y a tout un mouvement ouvrier français, francophone, avec des libertaires d'ailleurs. Gouvasiou figure dans ce dictionnaire. Et c'est Michel Gordillot qui a fait ce travail tout à fait remarquable. Et maintenant d'ailleurs, il va commencer à mettre les. Il a plusieurs milliers, il dit 5000. J'espère que c'est plutôt 4000 parce que. Ça va faire du monde à rentrer. Il va commencer à les rentrer en ligne pour mettre l'ensemble de ses fiches, alors qu'il n'en avait mis que 400 dans son dictionnaire. Alors, voilà, on a des ailes comme ça un petit peu. Ça a fini par devenir des plumes, d'ailleurs, plutôt, parce que on le fait de. Sans les multiplier, hein, les dictionnaires indépendants, parce qu'aujourd'hui, c'est la base quand même qui compte. C'est la totalité de la base sur laquelle on a une politique prudente parce que on essaye que les bibliothèques achètent la licence d'accès aux bases et le mettent à disposition. Quand c'est une bibliothèque universitaire, elles le mettent à disposition en nomade, c'est-à-dire que tout étudiant inscrit à la fac peut le consulter sur son portable chez lui, quoi. Donc on essaye d'intéresser les bibliothèques universitaires, avec un certain succès d'ailleurs à l'œuvre, ça crée une certaine continuité. Ensuite, on va essayer de rebondir avec les autres bibliothèques, mais là, quand même, je sens une petite différence par rapport aux années 70, un moindre intérêt pour tout ce qui est mouvement ouvrier, mais il faut qu'on se... faut argumenter. Ça dépend, en fait. Les bibliothèques nous disent toujours nous, on répond à la demande. Hein, alors, donc, il faut de la demande. Il faut la...
En tout cas, pour le public du coin, on les a quasiment tous. Il nous en manquait un ou deux, tout. Donc, de même que tout à l'heure, tu évoquais la thèse de René Bianco sur la presse libertaire. en France. Bon, c'est pareil, on l'a aussi. Donc, des gens veulent se passionner pour aller faire des trouvailles, tout ça. Et on en fait des trouvailles. Hein. C'est comme ça que j'ai appris qu'il y a des journaux à Soissons. Voilà, c'est bon.
Donc, quand même, pour dire que René Bianco, à la fois, donc c'est cet historien qui a été militant de la Fédération anarchiste un temps, il a aussi créé le CIRA, qui est le Centre international de recherche sur l'anarchisme de Marseille, hein, qui est un lieu auquel vous pouvez tout à fait aller à Marseille pour consulter d'autres ouvrages, qui est en lien avec le CIRA de Lausanne. Et on a associé justement les francophones, et en particulier Marianne Henkel, dans cette aventure-là. Alors, on a...
Marianne Henkel, c'est celle qui assure la gestion du CIRA de Lausanne.
Ouais. On a associé les francophones parce que le mouvement anarchiste est depuis toujours un mouvement qui se réclame de l'internationalisme. Et ça nous paraissait intéressant d'y associer les francophones. Alors, on aurait pu en associer d'autres, mais c'est pas deux volumes qu'il nous aurait fallu, c'est trois ou quatre, donc c'était un peu compliqué. On a néanmoins...
C'est surtout le nombre d'années pour réaliser.
Voilà, c'est ça. On a néanmoins conservé des militants ou des militantes qui n'étaient pas d'origine hexagonale, ni même francophones, à la condition toutefois qu'ils aient milité dans le mouvement anarchiste français. Hein, c'est pourquoi on a retenu Bakounine, dont vous voyez le portrait en pied quasiment dans le local. Et puis, un autre, par exemple, qui a été un historien important du mouvement anarchiste, Max Netlow, qui était d'une origine tout à fait autre. Hein. Donc, essayer de conserver ces gens qui ont marqué le mouvement. Par contre, du même coup, nous n'avons pas retenu ou très peu de militants anarchistes espagnols, qui ont été extrêmement nombreux dans la période d'après 1939, parce que la plupart d'entre eux, à quelques exceptions près, sont restés centrés sur la militance des Espagnols en exil et ne pensaient qu'à une chose, reprendre leurs valises pour retourner combattre le franquisme. Quoi. Voilà. Les jeunes camarades, qui sont plus si jeunes que ça, m'ont dit au Salon du Livre Libertaire de Paris, comment se fait-il que mon père, mon grand-père, ma grand-mère n'apparaissent pas? Ils ont pourtant été militants dans leur section syndicale d'entreprise. Alors je dis, en ce cas, faites-nous savoir quelle a été l'activité de vos aïeuls dans les sections syndicales de la CGT, peut-être de FO, oui, probablement, ou ailleurs. Et en ce cas-là, on peut les réintégrer sans souci dans la base Les Anarchistes du Métron. Donc c'est un peu des choix qu'on a fait comme cela.
Des questions ?
Moi, j'en ai une, moi.
Oui.
Je poserai bien à Claude. Tu as tiré quelques biographies de militants de l'Aisne, là, parce qu'il y a... Il y a eu une petite présence anarchiste historique dans l'Aisne.
Oui, il y a eu
hormis celle que vous connaissez.
Non, mais il y a eu ces milieux libres, ben par exemple,
oui. Hein, oui.
Et Georges Buteau, etc., du côté de Château-Thierry. D'ailleurs, il y a un historien local qui s'appelle Tony Legendre qui a sorti aux éditions libertaires un livre qui s'appelle Expérience de vie communautaire anarchiste et à Bascon. Hein, qui est disponible aussi ici. Hein. Et il y a eu d'autres. D'ailleurs, cette première communauté a débouché sur une autre communauté, et plutôt végétalienne. Et puis, bon, voilà, tout ça c'est traité dans quelques bouquins. Il y a Céline. Vaux Bascon.
Ouais. Non, la première c'est Vaux. Celle de Vaux.
Et ensuite,
et Bascon
est
végétalienne.
Voilà.
Totalement. Bascon, c'est après la. Après la Première Guerre mondiale,
ouais,
tandis que celle de Vaux est vers 1907.
À peu près, oui, c'est ça. L'autre, oui, c'est terminé. Elle a duré longtemps, l'autre, après celle de Bascon.
Oui, celle de l'entre-deux-guerres, Bascon a duré longtemps. Ils étaient tellement végétaliens qu'ils mangeaient surtout de la salade et la fameuse
et la basconaise. Alors, qui est toujours disponible.
Je vous conseille de goûter la basconaise.
Ouais.
35 éléments.
Oui. Il y a le lot.
C'est tout un équilibre. C'était très savant. Ils étaient un peu scientistes. Hein.
le café de la Marne à Château-Thierry fait une salade qui s'appelle la basconaise en respectant les. Voilà, donc elle est encore sur le marché bien des années après. Quoi.
Ah ouais, il y avait, d'ailleurs, à l'époque, ils avaient aussi un restaurant à Paris, à Morlaix, ouais. Qui faisait la salade basconaise. Ouais. Donc là, c'est des lieux de vie qui ont été assez durables, puisque Buteau a fait d'autres essais. Il en a fait à Saint-Maur-des-Fossés.
Il y a eu Aiglemont dans le coin, pas très loin de Charleville-Mézières. Il y en a un qui a duré de 3-4 ans, hein, de 1903 à 1906.
Oui, alors ce qui est intéressant, ce n'est pas des lieux qui ont vocation à durer éternellement, au bout du compte, c'est des expériences humaines, donc ils sont au rythme de la vie, en plus dans des périodes où les vies étaient plus courtes et plus difficiles, et matériellement plus difficiles à assumer. Ils faisaient un peu de travail extérieur, comme il y en a un qui était photographe, ils pouvaient rendre quelques services du point de vue artisanal, mais enfin ils essayaient de diminuer au maximum leurs besoins financiers, et le végétalisme leur permettait d'ailleurs aussi d'échapper à la consommation de viande qui était quand même très prenante. Ils étaient anti-alcooliques et contrôle tabac, et donc se défaire de l'obligation d'un travail trop lourd pour se replier sur à la fois l'individu mais la vie collective, c'était toute une philosophie avec une réflexion un petit peu en profondeur sur les conditions physiologiques qui permettaient cette survie. Mais il y a eu dans l'Aisne des tas de militants syndicaux, anarcho-syndicalistes, etc.
Avant d'arriver à ces derniers, l'idée de ces communautés, c'était de dire la révolution sociale tarde ou est difficile, tentons de vivre l'anarchisme dès maintenant, qu'on a pu retrouver d'ailleurs dans d'autres types de communautés ultérieurement. Ce que je voudrais dire aussi, en attendant que les choses s'organisent, là, non, c'est bon, t'es vrai ? C'est que l'intérêt aussi de ce dictionnaire-là, c'est de pouvoir, grâce aux appareils et aux tri qu'on peut faire, repérer un certain nombre de corpus. Par exemple, on a pu, grâce au travail de Claude d'ailleurs, voir que les femmes étaient représentées dans ce dictionnaire biographique du mouvement anarchiste francophone à hauteur d'environ 7%, c'est cela. Ce qui à la fois est peu, mais qui par rapport à d'autres mouvements socialistes, communistes de l'époque, font apparaître qu'il y avait autant de femmes chez les anarchistes que dans les autres mouvements sociaux, voire un tout petit peu plus.
Un petit peu plus, et on s'aperçoit qu'il y a des itinéraires qu'on ignorait. Il y a ceux qui sont bien connus, les fameuses May Picret, qui sont des belles personnalités, Louise Michel, bien sûr, etc. Non, mais la qualité vient relayer le nombre. Mais on a découvert des personnages qui n'étaient pas dans le métron, comme Thérèse Taugourdeau, sur lequel on a fait d'ailleurs un montage sur YouTube. Vous pouvez trouver, on a fait six montages sur YouTube, dont une sur Thérèse Taugourdeau, qui était dans les années 1912 une couturière à Paris, qui organisait une conférencière, une oratrice, puisque c'était il y a eu des grandes femmes oratrices, dont elle, avec une pensée essentiellement antimilitariste, mais c'était quand même l'axe essentiel du monde anarchiste. Contre l'institution, et la première institution à abattre, c'était l'armée, et c'était l'idée de la guerre, etc. Donc elle a été extrêmement mobilisée dans cette avant-guerre. Mais elle disait aussi des choses qui, dans le fond, nous paraissent assez nouvelles. C'est qu'il fallait que les hommes découvrent en eux des valeurs féminines. Ce qui paraît étonnant, elle écrit ça en 1912 dans le Libertaire. Et alors ça m'a beaucoup amusé parce qu'elle tenait à Paris, il y a un lieu CNRS, la rue Pouchet, en haut de la rue Pouchet, où il y a des tas de sociologues du travail et de féministes sociologues du travail. Or, le lieu où se réunissaient ces femmes, ces couturières à sensibilité libertaire, mais qui touchaient des gens bien plus largement que ce milieu-là, c'était deux numéros au-dessus, un endroit où il y a maintenant des HLM, puisque la ville de Paris, qui possédait ce bâtiment syndical, l'a détruit pour construire des HLM. Alors donc, on sidère nos collègues sociologues en leur disant « mais les ancêtres que vous ignorez étaient là et agissaient ». Donc on découvre des personnages, ce qui est un plaisir. Il faut toujours un petit peu comme ça une part de découverte. Et c'est pas par hasard, c'est le milieu des couturières et des midinettes à Paris. Et puis il y a eu ce sera un petit peu long, il y a eu un petit peu dans le milieu du livre, ces femmes qui refusaient le monopole du travail masculin dans le livre, etc., qui ont joué un rôle. Il ne faut pas minimiser cette part parce qu'elle a été fondatrice. Alors, elle a été fondatrice dans un domaine qui est celui du milieu néo-malthusien. En n'interprétant pas trop, parce que ces femmes du milieu néo-malthusien qui remettaient en cause la sexualité, le fait de pouvoir s'autoriser à ne pas avoir d'enfants, de créer les moyens techniques pour ça, elles travaillaient tout à fait en accord avec des hommes. Elles étaient, c'était fusionnel. Donc, quand Bernard Bessa a fait des films sur
Jeanne Imbert,
le film sur Jeanne Imbert, les féministes étaient enthousiastes. Et Jeanne Imbert, qui est encore vivant à 92 ans, leur disait « Mais moi, je ne peux pas être féministe comme vous parce que moi, je ne vois pas de différence entre mon militantisme et celui des hommes. J'avais une parole différente, j'avais un courage différent, parce que bon, c'est peut-être plus choquant d'aller en prison, aller en prison souvent, c'est une forte personnalité. Hein. Mais vous voyez une petite particularité que je voulais souligner, alors qu'en fait elle annonce bien sûr très clairement les revendications féministes. Et ça a un impact, tout le travail des néo-malthusiennes a un impact sur le monde ouvrier. Dans cette période où la guerre arrive, on n'est pas là en train, on n'a pas besoin de produire des enfants pour en faire des chars à canon, etc. Et puis la vie était dure, donc quand on donnait les moyens dans les bourses du travail, se distribuaient des moyens préservatifs. Parce que, les moyens préservatifs, ils ont existé de tout temps, mais ils étaient déjà un peu plus perfectionnés à cette époque-là. On n'a pas attendu la généralisation de la capote et de la pilule pour que les femmes s'en préoccupent, mais simplement fallait être autorisé à en parler. Et donc, pour s'autoriser à en parler, il fallait risquer d'aller en prison, ce qu'a fait Jeanne Imbert à plusieurs reprises. Moi, je l'ai fait venir, je donnais des cours dans une école d'assistante sociale, je faisais le cours mouvement social, etc., deux fois par an, là, et donc je leur avais fait faire une journée d'accueil et d'exposé où ils ont travaillé sur ces livres, etc. Et les jeunes assistantes sociales étaient sidérées. Je lui disais, mais vous n'aviez pas peur? Ça ne vous a pas traumatisé d'aller en prison? Mais comment? C'était la confirmation de la justesse de mes positions. Voilà, c'était des... que ce soit Mépi Cray ou elle, c'était des femmes importante, et d'ailleurs moi je suis très reconnaissant à Bernard Bessa d'avoir fait tous les films sur ces femmes, qui sont accessibles d'ailleurs par cassette, accessibles maintenant sur Internet.
Oui, on les a aussi.
Maintenant c'est accessible sur Internet d'ailleurs. Ouais. Alors, bon, voilà le voilà. Côté...
Bah, tout ce travail que tu fais émerger de découvertes, finalement, de voir des gens qui sont préoccupés de questions qui vont devenir des questions qui vont occuper toutes les générations après, ça s'est passé aussi au niveau pédagogique. Et peut-être que, parce que dans le mouvement libertaire, il y a eu une forte implication d'expérience pédagogique. Alors peut-être que, Hugues, tu pourrais nous dire un peu ce que tu as faire passer dans ce dictionnaire d'anarchistes concernant la pédagogie.
J'ai rien fait passer de plus que les autres. Effectivement, dans ce dictionnaire, vous allez trouver quelques grandes figures de pédagogues libertaires. Les plus connus d'entre eux sont des hommes. En gros, vous allez trouver Sébastien Faure, qui a monté une école qui s'appelle La Ruche, qui a fonctionné une quinzaine d'années dans la région de Rambouillet. Alors, ce qui était intéressant avec La Ruche, c'est qu'il y avait grosso modo 60 enfants ou 80 enfants qui y sont passés, mais il y a eu plus de 4000 demandes de familles ouvrières pour y envoyer les enfants en disant il y a enfin un lieu où on peut élever nos enfants dans d'autres pratiques et en dehors de l'école républicaine qui grosso modo soit les aliène pour qu'ils deviennent de gentils républicains électoralistes, voire même qui échapperaient à ces républicains qui peu ou prou ont participé au massacre de la Commune. Quoi. Hein, donc créons des lieux autonomes d'éducation de manière à ce que les enfants soient élevés dans la liberté et préparent la société future. Donc ça, c'est
avant, il y avait eu Paul Robin, mais c'était plus institutionnel.
C'était plus institutionnel. Paul Robin, donc, c'est en Picardie, pour le coup.
Hein,
c'est dans l'Oise. Là, belle expérience, mais Robin a l'autorisation d'exercer, en quelque sorte, grâce à Fernand Buisson. Alors, Fernand Buisson avait été militant de la Première Internationale, très proche de Ferry. Et à un moment donné, cet orphelinat est un peu en déshérence et Buisson va proposer à Robin de mettre en œuvre les pédagogies libertaires qu'il propose. Hein. L'idée des pédagogies libertaires, entre autres choses chez Romain, sont issues de Proudhon et de Fourier, c'est l'idée qu'il faut à la fois cultiver la main et le cerveau. Et cultiver la main et le cerveau, c'est à la fois pour faire des individus équilibrés, mais aussi faire en sorte qu'une classe d'intellectuels ultérieurement ne reprenne pas le pouvoir sur la classe des travailleurs manuels. Donc si on est tous travailleurs manuels et tous travailleurs intellectuels, il est peu probable qu'on recrée une classe d'intellectuels dominants. Donc expérience extrêmement intéressante de Robin, qui va alimenter la réflexion d'un autre pédagogue, pour le coup, qui a œuvré en France, mais qui est d'origine catalane. Alors, je ne parle pas de celui qui parlait hier soir à Barcelone, je parle de Francisco Ferrer. Francisco Ferrer va mettre en place des écoles modernes, rationalistes, en Catalogne d'abord, et le mouvement anarchiste espagnol les portera dans l'ensemble de la péninsule, voire au Brésil et ailleurs ultérieurement. Et ce Francisco Ferrer est dans le dictionnaire. Il sera fusillé en 1909 car ces écoles inquiètent le cléricalisme et l'aristocratie ibérique, et il est accusé d'avoir fomenté une grande insurrection en 1909 à Barcelone. Barcelone où il n'était pas d'ailleurs au moment de l'insurrection. Voilà. Enfin, donc ça c'est pour les figures peut-être les plus connues, mais il y a d'autres figures qui sont pour le coup des figures féminines qui sont moins connues. Il y en a au moins deux, trois que je peux évoquer. Deux qui sont issues d'un mouvement, enfin du mouvement anarchiste, mais plus individualiste d'abord, mais qui rejoindront un mouvement plus collectiviste ultérieurement, qui sont deux femmes. Anna Mahé et puis j'ai oublié l'autre, mais ça va me revenir dans un instant. Anna Mahé, c'est tout à fait intéressant parce qu'elle va participer d'abord aux causeries populaires, donc une scission des universités populaires suite à des critiques qu'ont fait les libertaires sur leur fonctionnement. Et elle va proposer dans ce journal L'Anarchie d'abord des articles sur la question de l'éducation, et elle va les proposer en orthographe simplifiée. Alors c'est extrêmement difficile à lire parce que c'est simplifié. J'ai pris des notes récemment sur le journal qui s'appelle L'Anarchie. Prendre des notes en orthographe simplifiée, eh bien, on a souvent tendance, parce que nous-mêmes, on a été formatés à vouloir réintroduire des choses qui ne seraient pas simplifiées. Voilà. Deuxième figure de ce mouvement-là, je ne sais plus comment elle s'appelle, donc je n'en parle pas. Voilà. Et par contre, une autre figure importante, une autre femme qui, elle aussi, va œuvrer dans un orphelinat, cette fois-ci, dans les Yvelines aujourd'hui, mais en Seine-et-Oise à l'époque, c'est à Épône, c'est Madeleine Vernet. Et Madeleine Vernet, durant une quinzaine d'années, va animer un orphelinat, et elle aurait souhaité mettre en place une école, mais l'inspecteur a empêché l'école d'ouvrir, parce que figurez-vous que, comme Ferrer, elle se proposait de faire de la coéducation, donc entendait avoir une école mixte. On parlait de coéducation à l'époque, et c'était absolument intolérable. Et il y a eu d'ailleurs des procès, les époux Mayou ont été maltraités aussi dans leur province sur cette question de la coéducation. Et l'idée de Vernet était tout à fait sympathique, puisqu'elle disait, quand il y a des enfants du prolétariat qui se retrouvent orphelins, il faut qu'on les prenne en charge dans le prolétariat avancé. Sinon, où vont-ils se retrouver? Chez les cléricaux, où on risque de les aliéner ou de les maltraiter, ou dans des pensions et dans des orphelinats autoritaires. Donc prenons en charge nos orphelins, à la fois pour qu'ils soient éduqués en enfants libres et qu'ultérieurement, ils deviennent des propagandistes ou des militants sociaux, sans pour autant qu'on les ait aliénés et conditionnés dans les écoles pédagogie libertaire. Voilà. Et donc c'est un personnage tout à fait intéressant. Elle va piloter de 1906 à 1922 cet orphelinat-là. En 1922, le conseil d'administration va changer, sachant que ça a toujours été ouvert, puisque cet orphelinat est porté à la fois par des individus, mais aussi par la Bellevilloise, par exemple. La Bellevilloise, c'est une très grande coopérative de consommation parisienne qui a été mise en place par les Proudhoniens, et aussi par un certain nombre de syndicats de la CGT. Donc c'est vraiment une structure portée par le prolétariat révolutionnaire de l'époque. En 1922, vous savez ce qui s'est passé en Russie en 17, les bolcheviks prennent le pouvoir dans un certain nombre d'organisations, elle est mise en minorité dans ce conseil d'administration et elle quitte l'orphelinat d'Épône qui s'appelait l'Avenir social, Avenir social pour les enfants et Avenir social éventuellement pour la société tout entière. Mais malgré cette difficulté provisoire, elle continuera à être une grande militante pacifiste et une grande éducatrice. Elle tiendra une revue qui s'appelle La Mère éducatrice, disons une trentaine d'années, et elle sera l'une des animatrices d'une grande ligue internationale pour la paix. Elle se battra à la fois pour l'émancipation des femmes, l'éducation des femmes qui sont des éléments de l'éducation des enfants, et bien sûr contre le militarisme qui avait écrasé le mouvement ouvrier en 14 et qui se préparait dans les années suivantes à continuer ses œuvres avec la Seconde Guerre mondiale. Quoi. Donc des personnages extrêmement intéressants. Celle dont j'ai oublié le nom s'appelle Émilie Lamotte et a écrit aussi un certain nombre de choses sur la question de l'éducation. Donc des portraits de femmes moins connues et qui méritaient très largement de réapparaître, à la fois parce que leur militance est tout à fait importante et parce qu'elles ont eu des vies tout à fait exemplaires.
À propos de ce choix de personnes dont j'ai parlé dans ce dictionnaire, comment vous avez fait mis les bornes pour déterminer si un militant ou une militante est anarchiste ou pas? C'est-à-dire qu'on connaît les courants, les gens qui sont dans les organisations les organisations libertaires, là, il n'y a pas de doute, mais il y a un tas de gens, par exemple, dans le champ culturel ou le champ pédagogique.
Non, mais on a écarté, parce que sinon on n'en finissait plus, c'était autre chose, tout ce qui était la sensibilité libertaire sans participation au mouvement libertaire lui-même. D'accord. Parce que sinon ça allait trop loin. Et dans ce cas-là, vous allez nous dire pourquoi vous avez mis Brassens. Parce que Brassens, il a été secrétaire de rédaction du Libertaire.
Oui, et puis il était au groupe du 14e de la Fédération anarchiste.
Il a eu des responsabilités réelles pendant tout un temps. Ensuite, il a bien contribué par son financement à bien des choses. Donc, il a tout à fait sa place. Et en plus, son œuvre aussi. On prend aussi l'œuvre qui porte vraiment une sensibilité libertaire qui permet de réfléchir à l'état de thématique, hein, le néo-malthusianisme, le pacifisme, le non-lien de propriété de la femme, hein, par le refus du mariage, etc.
Bon, l'amour libre, etc. Ouais. Hein, l'amour libre, c'est un mouvement aussi.
Donc on a pris bien sûr Léo Ferré aussi, parce que concrètement, c'est un accompagnement. Vous savez, Léo Ferré, il tenait toujours il était assez proche de ça, parce qu'il laissait dans ses chansons des traces de ses compagnons anarchistes. Te souviens-tu, Le Chu ? Il s'exclame ça au milieu d'une chanson, alors que personne ne connaît Le Chu. Tout le monde se demande qu'est-ce qui. Ça fait rien, ça sonne dans sa chanson. Mais c'est pour qu'on n'oublie pas.
Dans la chanson Les Anarchistes, il y a un clin d'œil à Maurice Joyeux.
Il y a un clin d'œil à Maurice
Joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout.
Bon, il venait acheter régulièrement aux éditions de l'Atelier, aux éditions ouvrières à l'époque, le dictionnaire. Donc il était acheteur du dictionnaire, parce que là aussi, bon, il recherchait les individus, la trace des individus. Donc la dimension culturelle est forcément très importante. Elle pourrait être encore plus développée, parce qu'il s'agisse du théâtre, du cinéma, etc. Il y a une trace libertaire très forte. Pour autant, on n'en a pas fait, on n'a pas priorisé. Quoi, hein. On laisse, par exemple, en nombre, c'est les militants ouvriers syndicaux qui sont les plus nombreux.
On a un jeune co-auteur là qui n'a pas travaillé autant qu'on aurait souhaité, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est un militant syndicaliste, qui a fait des comptages, et sur le volume papier par exemple, il s'est aperçu que 60% des militants qui apparaissent dans le volume papier ont eu des activités syndicales. Par activité syndicale, c'est simplement quelquefois avoir participé à une section syndicale, d'autres fois avoir eu des responsabilités dans des secrétariats d'union locale, d'union départementale ou de fédération. Ça veut dire que la présence des anarchistes dans le syndicalisme est avérée depuis Fernand Peloutier, et l'activité des anarchistes d'hier et d'aujourd'hui est encore relativement importante dans les organisations syndicales. Sachant que, contrairement à d'autres courants, ils s'installent non pas dans une organisation puisque le parti a décidé que, mais ils vont plutôt dans les lieux où il y a des luttes sociales et les gens avec qui ils ont un minimum d'affinité. Quoi. Ce qui fait que c'est extrêmement éparse du point de vue de l'implantation dans pratiquement toutes les confédérations ouvrières, y compris peut-être quelquefois la CFTC. Mais c'est des erreurs.
Bon, c'est ce qui explique que ce soir, par exemple, on n'est pas du tout, on n'en veut absolument pas aux grévistes de la SNCF de nous avoir retardé notre réunion. on est vraiment très content, au contraire, que des gens continuent à se battre. Ils ne sont pas assez nombreux, voilà. Donc, voilà, ils auraient même pu nous retarder encore un peu. Hein. Non, il y avait des limites aussi. Voilà, donc est-ce que...
Oui. 73 volumes, ça écrase, mais il ne faut pas que vous soyez écrasé. Il faut refaire surface. Et nous relancer par des questionnements et des remarques.
Je sais pas, mais si... Voilà, de toute façon, vous avez la parole. Hein, si, voilà, on a essayé de balayer autour de ce livre, mais si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ouvert. Hein, il suffit de... Voilà, de manifester.
Ouais. Sachant que dans ce dictionnaire, vous trouverez des militants et sur la base, ça va de 1840, donc où le mouvement n'existe pas en tant que mouvement constitué, mais où les prémices de l'anarchisme sont en train de se construire, jusqu'à aujourd'hui. Donc là aussi, un panorama tout à fait important de cette histoire sociale.
D'autant que les classifications bougent, parce que pendant très longtemps, moi je me rappelle quand j'ai adhérer au mouvement libertaire, la grande classification, c'était les individualistes, les communistes libertaires, les anarcho-syndicalistes. Or, aujourd'hui, un jeune qui adhère, par exemple, à la Fédération anarchiste, il a fort peu de chances de tomber sur un débat autour du choix de ces structures-là. Il y a une autre classification qui est proposée d'ailleurs.
Quand il y a la coupure entre plateformiste et synthésiste.
Oui, alors qu'il y a encore...
plus personne ne s'en...
Ouais.
Mais pourtant, elle est présente. Ah ouais. Oui, elle est présente dans la pratique, on peut l'observer.
Oui, au niveau international, par exemple, la césure existe encore. Ouais. Mais bon, là, c'est un truc un peu technique. Il faudrait expliquer ce que c'est que les plateformistes, ce que c'est que les...
Les conceptions différentes de l'organisation.
Puisque tu as la parole, tu peux... Voilà.
Non, mais moi, c'est vous les invités. Hein. Donc, mon but, moi, c'est vous faire parler le plus possible.
Sachant que dans le dictionnaire, il y a aussi bien ceux qui se réclament de la plateforme que ceux qui se réclament de la synthèse, qui ont les mêmes finalités, mais qui se donnent des modes d'organisation différents, une organisation étant plus... centralisé que l'autre, c'est-à-dire que dans le modèle plateformiste, il y a quelque chose qui ressemble à une ligne d'organisation. Chez les synthésistes, chaque groupe, dans le cadre de la fédération, peut tenir ses positions, sachant que les principes et l'éthique restent la même pour les uns et pour les autres.
Voilà, donc le groupe local, là, est synthésiste et participe à une organisation, la Fédération anarchiste, qui elle-même est synthésiste.
Autre chose quand même qu'on n'a peut-être pas assez évoqué, si vous ne prenez pas la parole, nous la gardons, ou je la garde, je ne sais pas, c'est que c'est une belle histoire aussi que ce dictionnaire-là, parce que dans son fonctionnement même, eh bien, on a fonctionné de manière autogestionnaire. C'est-à-dire que quand une biographie était proposée à la publication, par tel ou tel de l'équipe, elle était mise sur un site électronique coopératif qu'avait monté Anthony Laurie, là, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et à partir de là, elle était discutée, amendée, corrigée éventuellement par tel ou tel membre de l'équipe, jusqu'à ce qu'il y ait consensus en disant dans cette forme-là, elle peut être publiée. Moi, ça me paraît, de ce point de vue-là, tout à fait intéressant, d'autant que ça a duré quand même 6 années, je vous le disais.
Oui, c'est pour ça qu'il y a eu un grand retard comme ça, parce qu'il me semblait qu'elle devait sortir en 2008.
Non, c'est pas pour ça qu'il y a eu un grand retard. Il y a eu du retard parce que...
Ça, pour faire un volume comme ça, en effet, il faut bien 6 ans. Hein.
Voilà.
Et que... je ne crois jamais à des... entreprises comme celle-là qui se réalisent en 2 ans ou 3 ans.
Voilà. Et puis c'est aussi parce que notre ambition de qualité a été plus grande qu'elle ne l'était au début. Hein, à la fois, comme je vous le disais, modifier, corriger des bios existantes et puis surtout apporter des éléments nouveaux à la connaissance à la fois des jeunes historiens qui peuvent se pencher sur ce volume et aussi dans l'histoire de ce mouvement anarchiste en étant les plus pluralistes possibles, sachant que si on regarde là aussi, parce que c'est une autre façon d'utiliser ce dictionnaire, en essayant de recréer des zones géographiques. Et si vous faisiez ça par origine départementale ou de région, c'est vrai qu'il y a encore des régions qui sont mal couvertes. Autant on a beaucoup de choses, par exemple, sur Nîmes ou sur Marseille, autant sur la Picardie ou d'autres régions, on est beaucoup moins riche. Alors, soit parce que le mouvement était moins important que dans ces endroits-là, ce qui est possible, soit que les archives n'ont pas encore été dépouillées dans les préfectures, les archives départementales, ou que la mémoire militante s'est perdue parce que les choses sont ce qu'elles sont, quoi.
Mais souvent, elles se sont perdues, d'ailleurs, par rapport même aux familles des acteurs. Hein. Moi, je vois, j'avais travaillé sur le Cher, et il y a des belles figures d'anarchistes ouvriers de la céramique, d'autres travaillant dans les établissements militaires, Et donc maintenant qu'elles sont sur Internet, il y a des familles qui m'ont contacté et tout à fait surpris. Bien sûr, le grand-père, on savait qu'il avait fait des choses, on ne savait pas bien quoi. Et on s'aperçoit qu'il était anarchiste dans sa jeunesse, qu'il amenait des grèves, qu'il était franc-maçon, parce qu'il y a une partie, juste avant la Première Guerre mondiale, il y a eu un ralliement comme ça d'ouvriers spécialisés. Et par exemple, dans le Cher, les grandes grèves les grandes grèves de 1917 et de 1918 sont animées par Achille Légeret, qui est un de ces militants anarchistes d'avant-guerre, qui laisse peut-être pas beaucoup de postérité, mais qui marque l'événement. Il entraîne des manifestations de plusieurs milliers de personnes, etc. Enfin, c'est extrêmement impressionnant. Et ensuite, on le retrouve que par quelques petites choses. On s'aperçoit par les archives que quand il est mort, il a laissé les biens qu'il possédait à la ville. Hein, il a donné tous ses biens à la collectivité. Voilà, un profil de syndicaliste révolutionnaire.
Parlons de ça tout à l'heure, quand tu disais comment vous avez fait vos choix. C'est vrai qu'il y en a eu surtout un dilemme autour d'individus et d'un courant, c'est Eugène Varlin. Eugène Varlin est fusillé en 1871, et Varlin s'est jamais dit anarchiste. Il n'y a pas de trace, il l'a dit, rien n'est resté. Par contre, si on regarde les écrits de Varlin, son implication dans la Première Internationale et dans la Commune, il est évident qu'il était de ce courant-là. Alors on s'est quand même autorisé, sans preuve absolue, les historiens ont accepté quand même, que sans preuve absolue, Varlin apparaisse dans ce dictionnaire. Et autre débat qu'on a eu avec quelques-uns d'entre nous, c'est autour des syndicalistes révolutionnaires, qui pour une large part étaient anarchistes, mais ils n'étaient pas forcément dans le mouvement anarchiste ou encartés comme tel, ou sous prétexte de ne pas imposer aux syndicats une ligne d'organisation, ne faisaient pas état de leur anarchisme dans le syndicalisme. Et je pense pour ma part que la sous-représentation relative du mouvement libertaire dans les 60 volumes du Métron sont liées aussi à cette forme d'humilité ou de non-implication idéologique directe des anarchistes dans le mouvement social, contrairement à d'autres courants qui se revendiquaient d'abord comme ceci et éventuellement comme syndicalistes. Donc liés à la charte d'Amiens, liés à des choses de ce type-là. Voilà, bon, ça, tout ça reste encore à prouver. On a quelques noms qui auraient pu apparaître et qui n'y sont pas parce que... quelle preuve aujourd'hui?
Donc une rigueur qui vous fait honneur. J'emploie des mots comme ça pour...
J'ai juste une petite question de tous ces anarchistes que vous avez ressortis de l'oubli, justement, avec des familles qui vous contactent, et vous n'avez pas eu des familles qui vous ont dit « Non, mais attendez, grand-père, il n'a jamais été anarchiste. » Parce que, malgré tout, comme on s'est eu au téléphone ce matin, dans certaines familles, il y a toujours le grand-père, le grand-oncle qui sentait un peu le soufre, où on se disait... Vous n'avez pas encore eu d'écho de familles qui venaient se... Non, c'est, le temps passe et les choses...
Non, franchement, et puis je le vois par l'ensemble du Métron. Je ne vois vraiment qu'une seule exception, mais c'est une famille avec à particules et qui ne voulait pas que pendant la Révolution de 48, leur ancêtre ait été un révolutionnaire très avancé, etc. Bon, mais là, on sentait rien qu'au nom et à l'origine sociale de la famille. Mais non, les gens sont souvent très contents d'avoir des ancêtres très diversifiés. Du moment qu'ils aient de la gueule et de la vie, généralement, ça leur convient. Ils apprennent beaucoup de choses dans ces biographies-là. Ils réagissent bien. Les gens réagissent bien. Oh, puis l'anarchisme, quand il est un siècle avant, il ne sent pas tant que ça le souffre.
Oui, non, l'odeur disparaît. Oui,
non. Ils se préoccupent peut-être de savoir que leur enfant qu'ils voudraient envoyer en fac de pharmacie ne devienne pas un militant anarchiste. C'est possible. Mais
là n'empêche pas l'autre. On peut être pharmacien et anarchiste. Non. Et puis, il y a aussi le fait que, bon, même si une famille contestait, si on a des preuves que le grand-père ou la grand-mère était dans telle manifestation, dans telle conférence ou écrit dans tel journal, la famille a beau protester, les faits sont les faits.
Non, on n'est pas dans une société où il y a une telle frilosité. Pour les dictionnaires biographiques, des fois, il y a des pays où c'est... Par exemple, c'est souvent le cas. La Pologne, dans les dictionnaires biographiques, c'est très délicat de dire que quelqu'un est d'origine juive. Parce que ça a des implications, même sur les petits-enfants qui n'ont pas envie, parce que leur nom, ils ont pris des noms qui ne sont pas juifs, et il y a il y a toujours un relent d'antisémitisme qui fait qu'à un moment, est-ce que ça ne va pas ressurgir et avoir des conséquences sur notre vie, etc. Donc les gens qui font des dictionnaires biographiques en Pologne sont très prudents.
Non, mais encore aujourd'hui, nous, on voit dans notre militantisme des gens qui disent ben « Non, on est anarchiste, on ne veut pas adhérer parce qu'avec le boulot qu'on fait, ça pourrait nous porter préjudice. Hein, » soit on est dans l'enseignement, soit on est dans l'activité culturelle, etc. Et le fait d'être catalogué comme libertaire, comme anarchiste, ça pourrait être un handicap pour obtenir des contrats venant de certaines boîtes, etc. C'est pas faux en plus.
Quelqu'un nous incite à parler davantage ? Vous n'allez pas nous dire qu'un tel travail vous laisse froid ?
Ils n'ont peut-être pas encore lu ou parcouru. Alors justement, on en a. Bon, il est cher. Il est cher, mais bon, nous on a encore deux exemplaires. À céder, il est à 50 euros. Mais par contre, on peut le lire gratuitement puisqu'il y a un exemplaire à la bibliothèque sociale. Donc, comme tout le reste, de toute façon, le groupe Kropotkine s'est fait connaître pour le fait que sur les livres qu'il vend, il n'y en a pas qui ne soient pas accessibles au prix gratuit. On en fait un petit point d'honneur parce que ça, voilà, on est amoureux du livre et on est à Merlieu, village du livre. Et voilà, il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Bon, je ne sais pas s'il n'y a pas de questions. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que Hugues Lenoir, que vous avez entendu intervenir sur la pédagogie libertaire, est l'auteur d'un certain nombre de livres, dont quelques-uns sont là. Il y en a 3 ou 4 qui sont là. Donc, c'est pareil. Ils sont tous à la bibliothèque, bien sûr, donc vous pouvez les lire, mais si vous voulez en faire l'acquisition, c'est moi qui m'occuperai de la partie commerciale après. Sinon, moi, ce que je vous propose...
Je ferme ma pub aussi.
Oui.
Et normalement, d'ici quelques jours, il y a un petit opuscule dans la collection Graines d'ananas sur Madeleine Vernet qui devrait paraître.
Voilà, donc il sera accessible dès parution, puisqu'on les a systématiquement. Et bon, en tout cas, on va continuer après sous forme de... Il y a une petite question. Ah, voilà, c'est... Attends. Non, faut parler là-dedans, parce que sinon, il n'y aura que la réponse sur le...
Merci. Vous avez dit que ça couvre l'ère francophone. Vous êtes resté au niveau européen ou vous êtes allé jusqu'au Canada, par exemple?
La francophone couvre le Québec. Oui. À vrai dire, on n'a pas retenu énormément de biographies québécoises. Mais on a quand même noué un dialogue. La preuve, c'est qu'actuellement se tient le Salon du Livre Libertaire à Montréal avec la présence du dictionnaire. Donc nos amis québécois, plus largement d'ailleurs que le mouvement libertaire, hein, ceux qui s'occupent d'histoire sociale, etc., sont contents qu'on ait cette attention. Mais c'est ouvert aussi aux francophones des États-Unis, puisqu'on jouait un rôle important dans le mouvement ouvrier américain, ont laissé des traces tout à fait significatives. Donc on est content d'avoir pris cette forme francophone qui ouvre, qui casse le cadre et qui nous permet d'avoir des débats dans les différents pays. À Genève, je crois qu'il y a ces jours-ci une conférence autour du dictionnaire. Bon, la Suisse est bien représentée, hein, naturellement, parce que c'est un lieu... La Fédération jurassienne, et puis Marianne Henkel est une bonne historienne qui connaît bien ce terrain. Sinon, bon, il n'y a pas d'autres lieux francophones, puisque l'Afrique du Nord, on a quelques biographies, bien sûr.
Il y a Mohamed Sahil qui a été un militant de la CGTSR qui apparaît dans le dictionnaire. Ouais.
Il y a eu une présence anarchiste en Algérie, très tôt. Et puis ensuite, dans l'immigration.
Aussi bien d'ailleurs, c'était une présence qui était surtout faite de colons ou de pieds noirs, et quelques indigènes, c'est comme ça qu'on disait, cette horreur, c'est ça, étaient aussi liés à notre mouvement. Mais pour revenir aux francophones d'Amérique, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit plusieurs vagues de militance, aussi bien les utopies qui tentent de se réaliser autour de Fourier, Victor Considérant et de quelques autres. On a la vague de 1848-1852, donc ceux qui vont quitter la France après la répression de juin ou au moment du coup d'État de Napoléon qui deviendra le troisième, et nouvelle immigration encore après 70-71 et la Commune. Et puis ces gens-là sont restés actifs très longtemps, puis petit à petit, soit sont morts, pour une part d'entre eux, ils se sont plus ou moins assimilés dans le milieu nord-américain, ou sont rentrés en France pour continuer à œuvrer à la révolution sociale. Donc c'est tout à fait intéressant, et le travail de Michel Cordillo là-dessus est tout à fait remarquable. Quoi.
On pourrait quand même citer un cas local de Château-Thierry, le Bajin, un Chinois qui est à Château-Thierry, qui est un très grand romancier chinois, qui a...
Eh bien, en fait, non.
Ça a changé, alors.
Bon, lisez la biographie, tout est d'ailleurs commenté sur l'origine, sur l'origine du nom. Je me souviens plus, c'est Angèle Pineau qui l'a fait. Mais c'est vraiment un personnage de premier plan. Il écrit pendant sa présence à Château-Thierry. Donc je crois que d'ailleurs, à Château-Thierry, il y a des gens qui maintiennent un peu ce souvenir, qui organisent des débats littéraires autour de son apport. Il est mort en 2005. Il appartient à la fois à cette période des années 20 et 30, et il a survécu, il a continué à jouer un rôle comme traducteur. Et je crois qu'il a gardé une sensibilité libertaire.
Ouais, à la fin de sa vie, c'était plus tout à fait ça. C'était quand même l'homme de référence. C'est-à-dire qu'il a beaucoup subi, y compris jusqu'à la révolution culturelle. Il a, je veux dire que les pouvoirs successifs communistes lui en ont fait baver. Il a quand même toujours eu une aura qui l'a un peu protégé. Et après la révolution culturelle, il est devenu l'homme de référence. Du pouvoir a été cité partout et jusqu'à la fin de... Il a d'ailleurs eu des postes de notables et de représentants étatiques à la fin de sa vie. Hein. Tout a quasiment été publié maintenant. Hein. Parce qu'il a écrit sous énormément de pseudonymes et forcément... Et là, il y a eu un travail assez considérable. D'ailleurs, c'est Angèle Pineau qui a fait un travail dessus. Et c'est là que j'ai appris qu'effectivement, contrairement à ce que je pensais comme Hugues, Bajin, ce n'est pas la contraction de Bakounine et de Kropotkine. C'est une partie du prénom d'un ami pour la moitié, pour Ba. Et effectivement, Jin, c'est pour Kropotkine.
Voilà. Très bien, des fois jouer aussi.
Ouais. C'est lui qui a expliqué, quoi, et qui, par écrit en plus, de l'origine. Quoi.
Voilà, donc, et puis ses œuvres sont tout à fait intéressantes, pas tant les traductions qu'il a beaucoup écrit, sur la façon dont on vivait en Chine et plutôt dans les milieux aisés dans les années autour de 1900. Quoi. Et donc tout ça est paru chez Gallimard en poche, c'est à la fois accessible et intéressant.
Les romans sont parus en poche, maintenant ils sont accessibles, Nuit glacée, tout ça, le Nuit du repos. Mais il y a eu un gros bouquin sorti à Château-Thierry, cartonné, rouge, qui doit être là, qui est là, mais je regardais, normalement il se voit bien, mais comme c'est sur deux piles, Et donc, il est disponible aussi. On en a aussi plusieurs exemplaires sur nos tables de presse pour les gens qui voudraient. C'est vrai que c'est une vie un peu exceptionnelle quand même. Il a tout vécu, lui. Hein.
Ce qu'on peut-être ajouter par rapport à lui, c'est que toute une partie des jeunes étudiants chinois issus des familles plutôt aisées, voire très aisées, qui sont venus en France, pour une large part d'entre eux, ils ont été peut-être pas militants, mais sensibilisés au mouvement anarchiste, et que même toute une part de l'appareil communiste de la première génération avait été formée par les anarchistes en France. Mais visiblement, ils ont évolué dans un autre sens. Mais le mouvement...
Il y a une sensibilité anarchiste au Japon,
en Corée, en Chine.
En Corée. Oui. Bon, bah là, oui, là, c'est la francophonie par la philo, par l'amour de la langue française. Et donc, moi, ça rentrait moins dans notre, ça rentrait moins. Donc, on n'a pas cherché de ce côté-là. On n'a pas élargi.
Et je voulais aussi, c'est juste une petite pensée qui me revient, évoquer l'aspect de la réalisation de ce dictionnaire. Vous avez lancé une souscription. Hein, et est-ce qu'il y a eu du répondant dans le mouvement libertaire ?
Oui, c'est une bonne souscription qui a fonctionné, mais notamment d'une façon originale, puisqu'il y a un appel sur KissKissBankBank, qui est un réseau social sur lequel on dit on veut récolter tant d'euros pour une réalisation. Alors on avait joué modeste, on avait demandé 1000 euros, hein, on était parti sur on recherche 1000 euros pour aider à réaliser le dictionnaire biographique. Et là on posait différentes... alors on pouvait bien sûr acquérir le volume pour ce prix-là, on pouvait donner 10 euros pour la cause, on pouvait donner 20 euros pour l'accès au site. On pouvait donner alors beaucoup plus d'euros pour aider, et dans ce cas-là, on était cité dans les pages en remerciement, etc. Et bien, on a recueilli 3000 euros, c'est-à-dire beaucoup plus que l'objectif, rien que par les choses qui circulent. Donc, c'est une nouvelle. Les gens là ont envie d'aider l'œuvre, c'est clair, parce que sinon, ils pouvaient très bien acheter par ailleurs. Et ça a été remarqué, Philippe Meyer, dans sa. Sur France Culture, oui, en fait, 3 minutes. Pas, oui. Hein, et il a repris cette idée que le volume avait été aidé par une opération KissKissBankBank. C'est vrai que ça fait rêver. Au début, j'étais un peu. Ouais. C'est Guillaume Daffranche qui nous a proposé ça. Ouais. J'étais un peu surpris. Disant pourquoi pas. Et ça a très, très bien. Ça a bien fonctionné au sens où ça crée une dynamique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit la chose. S'accentuer au fur et à mesure des jours.
Oui, puis il y avait le côté traditionnel d'avoir l'ouvrage de moins cher que le prix public à la sortie, quoi. Il était à 40 euros et il est à 50 euros.
Oui, bien sûr, la souscription. Sachant que plus largement, un marché.
Elle a bien fonctionné. Par exemple, on a proposé deux choix aux souscripteurs. Choix d'un envoi par la poste avec des frais de port complémentaires. Soit, pour les gens au moins d'Île-de-France, de venir les récupérer à la librairie du Monde Libertaire. Il y a 100 personnes qui sont venues les récupérer à la librairie du Monde Libertaire, ce qui faisait un peu de mouvement dans la librairie. Et je crois, d'après ce que me disait le directeur des éditions de l'atelier, là, qui a soutenu le projet là aussi de manière forte quand même, parce qu'il n'aurait pas dit oui, il n'aurait pas eu au moins cette forme-là, on aurait peut-être fait quelque chose, mais pas dans cette collection-là et pas avec cette qualité, me disait qu'il y avait environ 400 souscriptions, ce qui pour le mouvement n'est pas rien, d'autant que vous savez peut-être que les éditions d'atelier, au-delà de l'histoire sociale, ont des collections plus, comment dire,
marxisantes.
Oh, pour marxisantes, hein, c'est issu des jeunesses ouvrières chrétiennes, hein, donc ils ont...
Personne ne répétera. Humaine, ça a toujours été un lieu très, très ouvert et avec une extrêmement bonne entente avec Radio Libertaire et puis sans aucune réserve sur toutes les thématiques, même s'ils assument leurs origines.
Sachant que donc, quand il y a des souscriptions qui sont faites plutôt dans le volet... catho-chrétiens de leur publication, quand ils lancent une souscription, ils sont de l'ordre de 800 souscripteurs, sachant ce qu'est le catholicisme dans ce pays qui est quand même encore très présent. On entretient des églises pour qu'ils puissent utiliser des locaux à titre gratuit régulièrement, donc ils ont encore un impact important. Et bien malgré l'importance de ce mouvement-là, le nombre de souscriptions est certes plus important, mais n'est pas démesurément plus important que ce que le mouvement libertaire a pu faire.
Non, surtout que c'était là quand même, c'était pas les souscriptions pour 10 euros, là, c'était 40 euros le livre. Bon, voilà. En tout cas, c'est bien que ça ait marché et puis ça correspond un peu à l'esprit.
Ça continue à marcher, il faut qu'on les recevant. Et puis qu'on ait des articles de presse, etc. Ouais. On a un petit peu démarré là, avec France Culture, et le reste.
On va avoir là une VO normalement, Nouvelle Vie Ouvrière là, de la CGT. Probablement
deux pages,
elle
devrait faire deux pages.
Peut-être l'Union.
Peut-être l'Union. Voilà. Bon, voilà.
L'Union, c'est quatre pages dans l'Union, non ?
Non, c'est le journal
c'est
entier.
C'est un cahier central. C'est un cahier central.
Ah non, ici, ils n'hésitent pas. Hein. L'Union fait la force et ça vient. On verra bien. Ouais. C'est surprise. Voilà. Donc l'Union est représentée quand même ce soir dans notre Union. C'est déjà pas mal. C'est le seul journal que je sache. Oui. Il y a le Méril Océan aussi, mais bon, c'est premier lieu. Voilà. Donc ce que je vous propose avant de remercier Claude et puis Hugues, c'est de déjà de vous rappeler qu'il ne faut pas oublier le 28 juin la dernière prestation de la Bibliothèque sociale, mais aussi le 24 mai, c'est-à-dire samedi, la Bibliothèque sociale est fédérée aux trois autres bibliothèques de Merlieu, et tous les ans on fait une opération commune, c'est-à-dire qu'on choisit un thème. Et chacune des quatre bibliothèques du village décline selon sa spécificité. Donc le thème qui a été retenu pour 2014, c'est l'Islande. Donc le CPIE, donc le côté pédagogique, organise un atelier de tissage islandais. À Geodovnia, il y aura donc qu'un centre de ressources environnementales. Ce sera un film de présentation au plus près du volcan. Hein, sur la faune, la flore, etc. La bibliothèque communale, donc à une vocation plus généraliste, proposera des contes islandais et une exposition, enfin une projection de photos d'une personne du village qui s'y est rendue et qui partagera un peu ses souvenirs. Et puis ensuite, à la Bibliothèque sociale, nous ferons intervenir Jérôme Skalski, qui est l'auteur de La Révolution des casseroles. Donc c'est le côté plus politique qui nous revient. Et donc on commencera par un extrait du film Inside Job, pour présenter un peu la situation politique de l'Islande. Je vous rappelle quand même que dans ce pays, ils ont refusé de payer la dette, ils ont destitué le gouvernement, ils ont élu des gens pour réfléchir à la modification de la constitution, enfin établir une constituante, voir un peu ce qu'il est advenu, est-ce que ça a marché, ou est-ce que la force du capitalisme ambiant les a remis au pas. Ben voilà, si vous voulez savoir tout ça, ça sera samedi 24, toute la journée. Voilà, on continuera bien sûr la soirée là autour d'un apéro. Le Gros Kropotkine vous offre l'apéro et puis on va partager quelques petits trucs, histoire de se remplir l'estomac parce que j'ai faim, et ça nous permettra de continuer à discuter entre nous et puis éventuellement de faire l'acquisition de livres. Pour les personnes qui veulent savoir nos prochaines activités, il suffit de mettre une adresse mail sur la feuille là-bas et on vous inscrira sur notre listing et vous recevrez de temps en temps de nos nouvelles. Et puis on a un site où vous prenez le programme de Bibliothèque sociale, il est dessus, vous pouvez nous voir. Bon, en tout cas, merci à Claude Pentier et à Hugues Lenoir d'avoir fait des détours par rapport à Dernier et qui rentre. Non, mais la surprise c'est que pas du tout, la surprise c'est qu'on vous dote d'un vélo. Voilà, parce que on a le souci écologique aussi ici, nous sommes des militants larges, à vision large. Voilà, et pour non, il n'y a pas de dérailleur, non, on a fait au plus simple. Et voilà, mais bon, en tout cas, vous allez pouvoir vous restaurer, boire un coup, et puis on va continuer à discuter. Et puis bon, merci pour ceux qui ont participé, et puis pour ceux qui n'ont pas participé. Voilà.